Et son amour en moi me presse à manifester le merveilleux Dieu qu'il est, en honorant et en aimant, en comprenant que Dieu aime le pécheur plus qu'il ne déteste le péché. Oui, il déteste le péché, mais il aime le pécheur d'une telle manière que Jésus est appelé l'ami des pécheurs. Et que son amour pour le pécheur l'a poussé à mourir sur la croix pour que le péché arrête de détruire le pécheur. Et que son acte de justice met un arrêt de mort à la mort que causait le péché.
Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Luc 13, verset 18, nous dit, Jésus dit, à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il ? À quoi puis-je le comparer ? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore, à quoi puis-je comparer le royaume de Dieu ? Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Le thème de ce matin s'intitule « Influence la société avec le levain du royaume ». Pour ceux qui ont fait l'école biblique, c'est un rappel pour certains points. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau message. Mais en tout cas, ce que Dieu veut, c'est que son Église n'oublie pas qu'elle n'existe pas pour elle-même, mais qu'elle existe pour étendre le royaume de Dieu. Et que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu est tellement vaste et tellement diversifié que Jésus lui-même, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, souvent parle du royaume en disant « À quoi comparais-je le royaume de Dieu ? Il est semblable à ceci, il est semblable à cela. » Et lorsque Jésus donne la définition ou illustre au travers d'une parabole à quoi ressemble le royaume de Dieu, il en donne plein de différentes parce que le royaume de Dieu ne peut pas être défini par une seule illustration. Le royaume de Dieu est tellement diversifié qu'il faut plusieurs paraboles pour essayer de comprendre à quoi il ressemble. Quelle est cette bonne nouvelle qui est réellement une nouvelle bonne et qui crée la joie ? En général, si on apprend une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle produit la joie, oui ou non ? Donc, la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit produire la joie dans le cœur des enfants de Dieu. Et dans Matthieu 6, au verset 33, connaissez pour la plupart d'entre vous ce passage, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc Jésus nous encourage à rechercher le royaume et à rechercher la justice du royaume, premièrement, avant toute chose. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions amener son règne. Comme je disais, c'est facile en tant que chrétien, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, de croire que tu vas aller au ciel. En fin de compte, souvent on dit, bon, ben, moi je crois en Jésus, moi j'évite l'enfer. Mais croire en Jésus, ce n'est pas uniquement aller au ciel. Croire en Jésus, c'est surtout amener le ciel avant d'y aller. C'est pour ça qu'il nous a dit de prier la prière du Notre Père. Que ton règne vienne sur la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à Saint-Pierre, que ton règne vienne au Tampon, à la petite île, à Saint-Joseph, à Saint-Louis, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, dans mon quartier, dans ma famille, dans mon couple, dans mon cœur, dans mon âme. Que ton règne vienne. Et c'est important pour nous de comprendre que si Jésus nous demande de prier cette prière, c'est parce qu'il désire la réaliser. Il ne demanderait pas de prier une prière qu'il n'a pas envie de réaliser. Donc le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que sa volonté et que son règne viennent sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire en toi, autour de toi. C'est pour ça qu'il nous dit « Cherchez premièrement ». C'est possible. C'est possible même au milieu de la tempête, même au milieu des difficultés, que le ciel vienne, que la paix vienne, que la joie vienne, que la bonne nouvelle du royaume est une constante bonne nouvelle et que l'effet de la bonté de cette bonne nouvelle produise en permanence la joie et la paix, malgré les difficultés. Car Romains 14, verset 17 nous dit ceci. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture ou de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par le Saint-Esprit. Donc cela signifie que la paix, la joie, la justice n'est pas donnée par les circonstances. Même si les circonstances sont parfois difficiles, il est possible par le Saint-Esprit d'avoir quand même la paix et d'avoir quand même la joie. Pour que son règne règne en nous, pour que sa paix règne en nous, pour que sa justice règne en nous, pour que nous puissions à chaque fois nous sentir justifiés par sa bonté. Son amour est venu nous justifier. Il est mort sur la croix et ressuscité, et cet acte de bonté extravagant de la part de Dieu est venu nous dire « Hé, regarde, je ne te considère pas comme un pécheur. Même si tu es un pécheur, mon amour est venu te manifester un tel honneur. Mon amour est venu te rendre digne. Mon amour est venu te rendre saint. Mon amour est venu te rendre juste. » Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Et quand constamment tu vis ta vie avec cette conviction en toi que son amour pour toi est accessible en permanence, à chaque moment, à chaque instant, et que tu gardes dans ta pensée cet amour-là qui te rend juste, qui te donne la paix, qui te donne la joie, et que tu apprends à vivre ta vie, non pas au travers de tes difficultés ou de tes souffrances, mais constamment au travers de ce qu'il a souffert pour que tu puisses, toi, avoir la paix. Ça fait une énorme différence. Alors son règne commence à régner. Alors sa justice commence à être enracinée en toi et en moi. Et nous puissions à notre tour dire « Hey, Seigneur, je comprends que ton royaume peut faire la différence. Parce que ton royaume est comme un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Je ne suis pas un pâtissier, je ne fais pas beaucoup de gâteaux. Mais le levain, je vois ce que c'est. Petite pincée de levure dans une grosse pâte, dans un gros bol, et vaigner, c'est gonflé. Un petit peu de levain gonfle la pâte. Cela parle de quoi? Cela parle qu'un petit peu de levain est capable d'influencer une masse beaucoup plus importante. Qu'un petit peu de levain est capable de modifier, de faire gonfler tout un volume plus conséquent. Et Jésus dit, le royaume est comme ça. Cela signifie qu'un peu de levain du royaume a la possibilité d'influencer ta famille, d'influencer ton quartier, tes collègues, ton couple. Il y a la puissance dans le levain pour faire lever la masse. Et la Bible dit aussi que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et ce royaume-là consiste par le Saint-Esprit à être juste, à être dans la paix et à être dans la joie. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il est important pour nous de réaliser que la puissance du royaume de Dieu est en nous et que si nous croyons et que nous fonctionnons par nos convictions avant de fonctionner par nos émotions qui sont instables, mais par nos convictions qui devraient être stables, alors on va voir l'impact du royaume de Dieu faire lever la patte. Et si le royaume de Dieu consiste en justice, il est donc nécessaire pour nous de faire des actes de justice et de comprendre qu'un acte de justice a plus de puissance qu'une multitude de péchés. On croit trop, malheureusement, que le péché est plus puissant que la justice de Dieu ou qu'un acte de justice. Un acte de justice a plus de puissance qu'une multitude de péchés. Je vais prendre cet exemple de Rahab la prostituée. Dans Hébreux 11, au verset 31, il est écrit « Rahab la prostituée a cru en Dieu, alors on ne l'a pas tuée avec les ennemis de Dieu parce qu'elle avait bien accueilli les espions israélites. » Comprenons bien ici, cette femme habite à Jéricho et son métier, c'est la prostitution. Donc le péché. Et lorsque Josué envoie deux espions dans la terre promise pour inspecter les habitants qui y habitent et les villes fortifiées, ils vont premièrement à Jéricho et cette prostituée les accueille, nous dit la parole de Dieu, favorablement, avec bienveillance. Elle fait un acte de justice, un acte de bonté en accueillant ces espions. Et cet acte de justice a préservé la vie de Rahab, la prostituée, avec toute sa famille. Parce qu'un acte de justice a beaucoup plus de puissance qu'une multitude de péchés. Et ce matin, j'espère que la parole de Dieu va nous empuissancer à réaliser que si nous nous mettions tous à croire et à pratiquer plus d'actes de justice dans notre famille, dans le travail, dans notre voisinage, nous commencerions à ce moment-là à comprendre qu'un acte de justice a plus de puissance qu'une multitude de péchés. Je vous prends un autre exemple, bien connu dans l'Ancien Testament, de deux villes qui ont été détruites, Sodome et Gomorre. On connaît bien ces villes parce qu'à cause de leur immoralité, à cause de leur péché, elles ont été détruites. Et dans Genèse 13, verset 12, il est écrit « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Genèse 18, verset 17 « Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. J'aime prendre ce passage aussi rapidement, comme j'ai fait précédemment, faire juste une parenthèse. Il est intéressant ici de noter le Dieu qui sait tout, dit « J'entends des bruits, mais je vais descendre pour vérifier si ces bruits sont vrais. » S'il sait tout, pourquoi il faut qu'il vérifie ? Parce que celui qui sait tout, s'il a envie de ne pas savoir, eh bien il ne sait pas. Si celui qui sait tout a envie d'effacer ton passé et d'oublier tes péchés et de ne plus les compter, eh bien il peut. Parce que non seulement il sait tout, mais il est aussi le Tout-Puissant, donc il fait ce qu'il veut. Et la Bible dit, lorsqu'on a accepté Christ, qu'il a oublié notre passé, qu'il a effacé nos péchés. Parce qu'il peut. Amen. Et donc il dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Les feras-tu périr aussi ? Pardonneras-tu ? Ne pardonneras-tu pas la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que soit le juste comme le méchant périsse, loin de toi de gérer de cette manière. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Et puis Abraham continue jusqu'à 10 justes. Et Dieu dit, ok Abraham, si je trouve 10 justes dans Sodome, j'épargne la ville. Et là, j'aimerais nous rappeler ceci, que souvent, on croit que Sodome et Gomorre ont été détruits à cause de leurs péchés. Mais là, on voit bien qu'ils n'ont pas été détruits uniquement à cause de leur immoralité. Ils ont été détruits parce qu'il n'y avait pas assez de justes dans la ville. Des milliers de gens qui font n'importe quoi, 10 justes est capable de préserver des milliers de gens qui font n'importe quoi. Il y a plus de puissance dans un acte de justice que dans une multitude de péchés. Et le problème en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on est trop focalisé sur la puissance destructrice, dévastatrice du péché. Pourquoi ne pas nous focaliser sur la puissance extraordinaire de bienveillance, de construction de la justice, d'édification de la justice? Sodome et Gomorre ont été détruites parce qu'il n'y avait pas assez de justes. Mais quel était réellement le problème de Sodome et Gomorre? Ézéchiel 16 nous donne la réponse. Ce prophète parle et dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Waouh ! Le crime de Sodome, on pense souvent que c'est l'immoralité. Mais ce n'est pas ça le problème en réalité. Le crime que Dieu reprochait à ce moment-là à Sodome et Gomorre est écrit là. Voici le crime de Sodome. Elle était orgueilleuse et dans l'abondance. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et du pauvre. Elle pensait qu'à elle. Elle était centrée sur elle. Elle était dans l'abondance et ne s'occupait pas du malheureux. Verset suivant nous dit, elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Le fait d'être constamment centré sur nous-mêmes, sur elles-mêmes, a poussé Sodome et Gomorre à devenir immorales. Mais l'origine, c'est pas ça. L'origine, c'est qu'elles ne prenaient pas soin du malheureux et du pauvre. Et imaginons-nous l'Église. La parole de Dieu nous dit que les Écritures ont été écrites pour notre enseignement. Si nous, l'Église, et que l'Église ne comprend pas qu'elle ne vit pas pour elle-même, mais qu'elle vit pour la société en dehors, qu'elle vit pour étendre le royaume de Dieu, et que l'Église ne se soucie pas du malheureux et de l'indigent, c'est pas bon. Je parle l'Église avec un grand E. Parce que gloire à Dieu, je sais qu'ici, extravagance et potentiel, beaucoup de frères et sœurs sont actifs dans la société pour prendre soin du malheureux et de l'indigent. Et gloire à Dieu pour ça. Lorsque Dieu a envoyé les anges, il y avait encore un juste dans Sodome et Gomorre, Lot et sa femme. Et les anges disent, écoutez, on ne peut pas détruire la ville tant que vous êtes dans la ville. Entre parenthèses, à nouveau, gloire à Dieu qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour sauver. Parce que lorsque Jean et Jacques ont voulu appeler le feu du ciel pour détruire la Samarie, qui ne voulaient pas accepter que Jésus entre dans la ville, Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Je ne suis pas venu détruire, je suis venu sauver. Amen. Mais ces histoires de l'Ancien Testament sont écrites pour notre enseignement, nous dit les Écritures. Et lorsque Lot quitte la ville avec sa femme, les anges disent surtout ne regardez pas en arrière. Malheureusement, la femme de Lot n'a pas écouté et elle regarde en arrière. Et dans Genèse 19, 26, il est écrit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et ça, c'est important pour nous. Elle devint une statue de sel. Pourquoi elle n'est pas devenue une statue de poussière? Parce que nous sommes nés poussière et faits de la poussière et nous allons retourner à la poussière. Pourquoi n'est-elle pas devenue une statue d'argile? Elle est devenue une statue de sel. Je vous disais il y a un instant, Lot était le seul juste, nous dit la parole de Dieu, dans cette ville. Et donc, les anges disent, il faut que vous quittiez la ville. Parce que le sel, c'est celui qui est juste qui est le sel. C'est pour ça que Jésus nous dit à nous, dans Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Qui croit en Jésus dans ce lieu? Amen. Donc tu es le sel. Tu es qualifié pour de bonnes œuvres. Tu es la lumière. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre que le royaume de Dieu est en nous et qu'un acte de justice a plus de puissance qu'une multitude de péchés. Et que les enfants de Dieu, qui sont le sel et la lumière, doivent aller assaisonner la société avec des actes de justice pour que le royaume qui consiste en la justice soit comme le levain qui va faire lever la pâte. C'est très important pour nous de comprendre cela. Tu es le sel et tu es la lumière. Mais de manière pragmatique, comment être la lumière? Comment peux-tu être la lumière dans ta famille? Comment peux-tu être la lumière dans ton voisinage? Comment peux-tu être la lumière dans ton travail? C'est quoi le fruit de la lumière? C'est en quoi consiste de manière pragmatique pour nous la lumière? Éphésiens 5, verset 9 nous dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière, si nous sommes la lumière, le fruit, la conséquence de ce que nous sommes, la conséquence de notre identité, de la lumière que nous sommes, c'est toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Cela signifie que c'est par la bonté que nous allons manifester aux autres, par toutes sortes d'actes de justice et d'actes intègres, vrais et honnêtes, que ceux qui nous entourent vont voir la lumière. Amen. Ce que Dieu désire que nous puissions réaliser et comprendre. Proverbe 14, verset 34 nous dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La justice. Isaïe 1, verset 1 nous dit ceci. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias et de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Alors là, le prophète Isaïe dit, voilà, Dieu me donne une prophétie pour Jérusalem et Juda, le peuple de Dieu. Au verset 10 de ce même chapitre, regardez comment il s'adresse à Jérusalem et à Juda. Écoute la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Comme on dit en créole, ça c'est un cosmos, hein? Il s'adresse ici à Juda et Jérusalem. Et il s'adresse à eux comme si c'était Sodome et Gomorre. tellement là, il n'est pas bon. Mais pourquoi il s'adresse à eux comme ça? Il dit ensuite au verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, et je ne prends point plaisir au sang des taureaux et des brebis et des boucs. Quand vous venez les présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai horreur de l'encens que vous m'amenez, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux célébrations. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Ah, c'est dur. Verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » Comment ? « Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Waouh ! Waouh ! Ici, Dieu n'est pas content avec son peuple parce que le peuple commence à être comme Sodome et Gomorre, centré sur eux-mêmes. Ils font leurs petites célébrations, petits sacrifices, un peu de prière, un peu d'offrande. Oh Dieu, je t'aime. Mais ils n'arrivent pas à réellement apprendre à faire le bien. Ils n'arrivent pas à réellement apprendre à faire des actes de justice envers les malheureux, envers les pauvres, envers les indigents. Ils sont trop à nouveau comme Sodome et Gomorre, centrés sur eux-mêmes. Et Dieu dit, hey, réveillez-vous et apprenez à faire le bien. Gloire à Dieu, ça s'apprend de faire le bien. Et il dit, cherchez à délivrer l'opprimé. Cherchez à faire du bien aux malheureux. Défendez la veuve. Et nous, en tant qu'Église, ça doit nous servir de leçon. On doit dire, oh, on comprend. Aujourd'hui, c'est nous le peuple de Dieu. Et on comprend que Dieu ne veut pas qu'on soit centré sur nous-mêmes. Et qu'il désire qu'on puisse réellement faire des actes de justice. Il désire qu'on puisse réellement apprendre à faire le bien dans la société. Et pas être juste centré sur nous-mêmes. Entre nous, oui, premièrement, mais aussi envers les autres. Car l'Église est le sel, l'Église est la lumière. Et Jésus dit, une lumière n'est pas faite pour rester cachée, elle est faite pour être mise sur les étagères. Mais en quoi consiste cette lumière? En toutes sortes d'actes de bonté, de justice et de vérité. Et donc il est nécessaire de faire du bien. Les actes de justice et de bonté, c'est ce que Dieu veut que nous pratiquions à l'image de Jésus. Jésus aussi faisait du bien. Et il a été oint pour faire du bien. Acte 10, verset 38 nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » L'onction pour faire le bien, l'onction du Saint-Esprit pour faire du bien, pour briser les œuvres du diable, pour être le sel, pour être la lumière, c'est ce que Dieu veut. Jérémie 29, 7 nous dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Regarde ton voisin et dis-lui, « Recherche le bien de ta ville. » C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Dieu veut que nous, son peuple, nous puissions rechercher le bien de Saint-Pierre, le bien du tampon, le bien de la petite île, de Saint-Paul, de Saint-Joseph, de Saint-André, de Saint-Lazie, de Saint-Denis, du port, de la possession. Dieu veut que son peuple recherche le bien de la ville. Parce qu'il sait très bien qu'un peu de levain du royaume est capable de faire lever toute la pâte. quelques actes d'amour, quelques actes de bonté, quelques actes de justice est capable de faire la différence. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et il veut nous oindre pour faire le bien. Dans Isaïe 6, verset 11, il est écrit « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur remise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête une huile de joie, d'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel, qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. » Dieu dit ici, « Hey, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ça. » Et Jésus reprend ce passage dans Luc 4. Il reprend ce passage au moment de commencer son ministère. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et il reprend ce passage d'Isaïe 6, ou 61 plutôt, excusez-moi. Et quand Jésus reprend ce passage, il dit, « Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire le bien, pour restaurer les cœurs brisés, pour restaurer ceux qui sont dans le deuil. » Et ensuite, il dit, « Et ils rebâtiront. » C'est qui « ils » ? Ce que Dieu a relevé. Il, c'est ce que Dieu a relevé. Il, c'est toi et moi. Et il veut nous utiliser, nous, pour rebâtir sur d'anciennes ruines. Il veut prendre celui qui était dans la rue et tellement le délivrer, l'honorer, le oindre, que celui-ci est capable à nouveau d'aller dans la rue et dire, attends, regarde ce que Jésus a fait. Il est capable de prendre ton passé et d'en faire un témoignage pour la gloire de son nom. Il prend ceux qui ont été brisés, les couples qui ont été détruits, il les restaure. Et avec eux, il rebâtit de nouveaux couples. Il aide de nouveaux couples à être solides. Il prend peut-être ceux qui ont été drogués ou alcooliques. Il les délivre par son onction, parce qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Et il les restaure, et il les prend. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux ? Il rebâtit. Il prend ceux qui ont été brisés et détruits. Et avec ceux qui ont été détruits, il construit. Et comment il construit ? La parole de Dieu ici nous dit, ils vont être appelés les chaînes de la justice, parce qu'ils vont faire des actes de justice. Ils seront remplis de compassion, remplis d'amour, par rapport à l'amour que Dieu les a manifesté, parce qu'il sait que Dieu les a aimés le premier, et il veut aimer en retour. Et comment ils vont faire les actes de justice, eux qui vont être appelés les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel? Comment? Ils vont manifester sa splendeur. En manifestant sa splendeur, en manifestant sa bonté, en manifestant son amour. Voilà comment ils vont rebâtir. En manifestant sa gloire. En manifestant sa compassion. En manifestant Dieu le Père. Parce qu'ils vont connaître qu'ils sont les fils bien-aimés du Père. Et c'est ce que Dieu veut. Comment amener la société à aimer Dieu ? Lorsque les enfants de Dieu vont commencer à l'aimer en premier, afin qu'ils vont manifester sa splendeur, à ce moment-là, ils vont se dire, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'aimes-tu comme ça? Là, tu pourras dire, parce que Dieu t'aime, parce que tu as de la valeur. En faisant des actions d'amour désintéressées, c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Le levain du royaume C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui est manifeste au travers des enfants de Dieu, au travers de la générosité, au travers du service, au travers de l'honneur, au travers des paroles d'encouragement, au travers de la compassion. Il manifeste par des actions concrètes que Dieu les aime. Et ça, un petit peu de levain d'amour est capable de restaurer un couple qui est en péril depuis des années. Un petit peu de levain d'amour est capable de restaurer une relation parent-enfant brisée depuis des années. Un petit peu de levain d'amour qui manifeste le pardon est capable de restaurer, de réconcilier des années de querelle. Le royaume de Dieu est comme une femme qui a pris un peu de levain, de farine, et qui l'a mis dans la farine. Un peu de levain, pas de farine. Et ça fait gonfler toute la pâte. Et quand les enfants de Dieu vont comprendre ça, ont commencé à faire un peu d'actes d'amour et de justice et de bonté par le service, comme plusieurs ici commencent à le faire déjà. Une sœur qui va au cinéma dans la semaine, qui s'assoit, qui veut juste regarder un bon film, et là Dieu lui dit, hey, tu vois cette famille là-bas, ils étaient 5, offre-les leur place. Elle ne les connaît pas. Et elle y va et elle paye pour toute la famille. Choquer la famille par la bonté de Dieu. Comme ça m'arrive avec plusieurs d'entre vous, je le sais, mais je le dis parce que le pasteur Bruno ni moi, on est les seuls à le faire. Plusieurs le font. Comme les jeunes qui vont manger avec Jérémy, le leadership de jeunes, dans un restaurant. Et qu'est-ce qu'ils font? Chacun emmène une somme pour laquelle il va manger. Et il double cette somme pour le pourboire. Et quand ils quittent le restaurant, ils donnent le même pourboire du montant qu'ils ont payé au serveur. Wouhou ! Et là, les gens sont fracassés par cet amour immérité. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. On ne mérite pas l'amour de Jésus sur la croix. Et il dit, imitez le Père. Jésus dit, imite-moi. Un disciple bien formé comme son maître. Imagine la tête du serveur. Ou moi-même, ça m'arrive, comme d'autres parmi vous, faire des courses et prendre les courses pour celui qui est devant ou derrière. En faisant attention, comme dit le pasteur Bruno, que le chariot n'est pas trop chargé. Et les gens sont touchés. Et ils ne comprennent pas. Ou tu es au restaurant, à côté du pourboire, Dieu te dit paye pour la table là-bas. Et gloire à Dieu, plusieurs d'entre vous dans l'église commencent vraiment à faire ça. Et les gens sont choqués. Ça m'est arrivé une fois de faire de l'essence et de voir des jeunes arriver en scooter. Tendre contre la monnaie comme ça. Je dis aux gars, je prends leur plein. Petit plein de moto, c'est pas grand-chose. Mais des actes de bonté, de justice désintéressée. Et tu fais pas ça pour que la personne vienne à l'église ou donne leur cœur à Jésus. Gloire à Dieu s'ils le font. Mais tu fais ça, ton but est d'aimer comme Jésus aime. Et si la conséquence de ton amour, c'est qu'ils donnent leur vie à Jésus, gloire à Dieu. S'ils te demandent pourquoi tu les aimes, alors tu dis voilà, parce que Jésus t'aime et tu m'aimes. Comme la semaine dernière, Sylvia et toute l'équipe qui sont partis samedi soir donner des roses et une carte de potentiel aux prostituées de Saint-Pierre. Et une des prostituées ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Et Sylvia a répondu, parce que tu es précieuse. Et elle a commencé à pleurer, à prendre Sylvia dans ses bras et dire, personne ne m'a jamais dit ça. C'est ça l'église. C'est ça être le sel. C'est ça être la lumière. La lumière consiste en toutes sortes d'œuvres bonnes, d'œuvres de justice et de vérité. Ou comme Michael, qui avait potentiel, va dans les maraudes Le mardi soir et le jeudi soir, il y a des équipes qui vont dans les ghettos de Saint-Pierre donner des barquettes de repas aux sans-abri. Et Michael, avec son équipe, va avec les équipes et il joue du djembé. Et il chante avec une guitare et ils adorent Jésus. Avec François. Et tous les gars arrivent autour d'eux. Et cette semaine, François et Michael ont ramené 2 âmes au Seigneur. Hey! 2 personnes qui étaient dans la rue, qui pleuraient en disant merci, merci de prendre du temps pour nous, merci de nous aimer, merci d'être là. Mais c'est ça l'Église. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Même si on est déjà un peu réveillé ici, gloire à Dieu, mais on se réveille plus encore. Mon cœur est de vous réellement pousser d'aller de progrès en progrès. Que ce soit écrit dans nos cœurs, en puissance par l'amour de Dieu. En puissance à faire du bien par l'amour de Dieu. En puissance à faire plus d'actes de justice par l'amour de Dieu. En puissance à faire plus d'actes de service par l'amour de Dieu. En puissance pour pardonner. En puissance pour aimer. Hey, en puissance pour être plus généreux. Parce que l'amour de Christ me presse. Et son amour en moi me presse à manifester le merveilleux Dieu qu'il est. En honorant et en aimant, en comprenant que Dieu aime le pécheur plus qu'il ne déteste le péché. Oui, il déteste le péché, mais il aime le pécheur d'une telle manière que Jésus était appelé l'ami des pécheurs. Et que son amour pour le pécheur l'a poussé à mourir sur la croix pour que le péché arrête de détruire le pécheur. Et que son acte de justice met un arrêt de mort à la mort que causait le péché. Pierre 2:12. Ayez une bonne conduite parmi les païens. Ainsi même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra les visiter. C'est ça l'Église. J'étais touché par l'histoire de l'Église de Bethel en Californie, qui, comme nous ici, cherche réellement à amener le règne de Dieu dans la ville, dans la société. Ici, avec Potentiel, on a beaucoup de missions, comme vous le savez, les colis alimentaires, les repas, les vêtements. Potentiel a... En 2013, fait plus de 19 000 actes de service et touché et servi plus de 9 000 personnes. Je crois vraiment qu'on peut applaudir un peu plus le Seigneur et tout le monde pour ça, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Parce que Potentiel, c'est l'Église. C'est vous les frères et sœurs qui servent. Même si c'est pas tout le monde, mais on en parle pour justement faire un week-end spécial Potentiel, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui hésitent encore, comprennent que Dieu aime qu'on fasse des actes de justice, qu'on fasse des actes de bonté, qu'on prenne soin des familles qui sont dans le besoin, comme Cédric et son projet, Famille Espoir. Par exemple, il y a plein d'autres missions, Johnny avec les médiateurs de l'espoir. Nous, on donne l'espoir. En aimant. Et dans cette société égoïste où le péché est surexposé par les médias, une église se lève avec un grand E, pas que nous. Et les enfants de Dieu commencent à se dire waouh, nous on va faire différemment. On va aimer d'un amour désintéressé, d'un amour qui n'est pas égoïste. On va aimer pour manifester la splendeur de Dieu. Dans le but de gagner les gens à Christ, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On ne va pas cesser de les aimer quand même. Comme je disais, imaginez quand tu vas chez un concessionnaire de voiture pour acheter une voiture. Tu es bien habillé avec tes enfants. Le concessionnaire, le vendeur arrive. Et s'il y en a ici, que Dieu vous bénisse. Mais le vendeur arrive et dit « Waouh, super chemise. Waouh, tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'ils sont choux. Oh, les chaussures superbes. » En fin de compte, le gars te dit tout ça, mais il veut vendre son loto. Il veut vendre sa voiture. en général. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu, c'est que des fois, ils font des actes d'amour pour vendre Jésus. Ah, m'a fait ça pour lui, il ne veut même pas donner l'église. C'est pas bon. Quand Jésus était sur la croix et que tout le monde était, il souffre pour les pécheurs, il n'a pas dit, je vais regarder s'il n'y en a pas un qui dit, bon bah Seigneur, en fin de compte, je vais te donner ma vie parce que vu comment tu réagis, tu es vraiment Dieu, quoi. Jésus n'a pas dit, t'es n'importe quoi, sors de la croix, moi. Il n'a pas fait ça. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsqu'on fait des actes d'amour, lorsqu'on fait des actes d'amour désintéressé, lorsqu'on met un peu de levain par le service, par amour on sert, par amour tu es généreux, par amour tu pardonnes, et par amour tu réconcilies, et par amour tu donnes de l'honneur, et par amour tu te fais un sacrifice en donnant des horaires, du temps à des personnes, etc. Je ne sais pas. Mais que tu le fais pour le chrétien comme pour le non-chrétien, pour bénir l'Église, pour bénir la société. Pour bénir le frère et pour bénir celui qui n'est pas frère. Parce que Dieu nous demande même de bénir nos ennemis. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre en tant qu'Église. Et cette Église en Californie, un des leaders rencontre un leader politique de la ville qui s'appelle Reading. L'Église s'appelle Bethel et la ville s'appelle Reading. Et ce leader politique était inquiet parce que cette Église fait à peu près apparemment le week-end entre à peu près 7000 membres viennent à l'église le week-end. Et dans la communauté de la ville, ils sont un peu plus de 20 000 apparemment, sur une ville de un peu plus de 80 000 habitants. 20 000 sur 80 000, c'est pas mal, non? Pour une église. Oui ou non? Sans compter l'impact international. Je dis des chiffres comme ça, mais c'est sûrement plus. Comme je n'ai pas les chiffres précis, je ne vais pas exagérer. Mais je suis sûr que c'est beaucoup plus. Et cet homme politique était assez inquiet parce que la force et le poids qu'a cette église dans la population de la ville est énorme. Et si cette église décidait de prendre un candidat au milieu d'elle pour le mettre maire, croyez-moi, il a forte chance pour que ce candidat la passe. Et qu'ils sont au moins un gros poids dans l'opposition. Et cet homme politique-là avait peur. Et donc il est venu discuter avec ce leader de Bethel. Et le leader de Bethel a dit, ne crois-tu pas que depuis maintenant presque 20 ans qu'on est là, 18 ans maintenant à Reading, si on aurait voulu forcer notre volonté et avoir une force politique dans la ville, on l'aurait déjà fait. Il dit, je vais te prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans notre propre ville. Dans cette ville de Reading, il y avait un théâtre qui s'appelle le Civic Center. Et le théâtre appartenait à la municipalité. La municipalité a mis dans les journaux qu'elle vendait le théâtre parce que c'était trop de frais, elle n'avait plus la capacité financière d'entretenir et de payer donc les emplois, etc. Pour l'entretien de ce théâtre. Donc elle le mettait en vente. Et Bethel a une école biblique de plus de 2000 membres et ils cherchaient au même moment un grand local. Et ce local fait 3000 places, donc ça tombait bien. Ils ont parlé donc au peuple, ils ont dit on va aller prendre ce théâtre, qu'en pensez-vous? Tout le monde a dit oui, et tout le monde a commencé à dire on va venir dans la mairie, que vous allez présenter le projet, et comme on est des milliers, on va faire la masse. Et crois-moi, quand tu fais la masse devant un maire, c'est pas, en fin de compte, tu fais pas la masse. Ça a du poids. Et les dirigeants ont dit non, on veut pas forcer. La puissance en termes de population qu'on a sur eux. On veut faire un projet excellent, bon et du forme. Et s'ils le choisissent, ils le choisissent vraiment en n'étant pas forcés par l'extérieur, mais en étant conduits par une volonté libre intérieure. Et il y avait 33 personnes qui sont présentées à la municipalité pour ce local, l'acheter ou le louer. Et les 32 personnes passent, ils sont les 33e, les derniers. Et ils sont partis qu'à 3 ou 4, un petit groupe. Et là, pendant que les premiers débattent et donnent leur opinion, les 32 premiers, leur tour arrive. Et quand leur tour arrive, ils présentent un projet, un programme excellent. Et voici leur plan. Ils arrivent en disant, écoutez, nous ne voulons pas acheter le Civic Center. Nous avons les moyens de l'acheter, Nous avons même les moyens de construire un mieux. Mais nous ne voulons pas l'acheter, nous voulons le louer. Nous voulons le louer premièrement pour que le Civic Center reste à la ville parce que notre désir est de bénir la ville. Nous voulons le louer pour que ensuite vous restez toujours propriétaire et nous allons prendre juste une partie du planning horaire pour laisser accès à toute autre association ou concert pour que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent aussi bénéficier de cette infrastructure qui est une bénédiction pour notre ville. Mais ce que nous aimerons aussi, c'est de louer 4 fois son prix. Pour aider financièrement la ville à redresser son économie. Voilà une église qui a compris qu'un peu de levain est capable de faire lever toute la pâte. Cet homme politique a dit, messieurs, dames, tous ceux qui étaient là, il y a eu 33 personnes qui ont parlé, 32 personnes, 32 organismes ont donné que leur opinion et ont partagé que des débats. Il y a eu un seul plan et personne n'a présenté un plan aussi carré et excellent que eux. Donc on va choisir leur plan. Ah. Et ensuite, l'homme politique dit, vous venez d'enlever plus de 20 ans d'anxiété par rapport à votre église. Parce que je ne savais pas que votre cœur était de faire autant de bien à la société. On a entendu plein d'échos, mais le fait de discuter avec vous, l'un des responsables, ça m'a vraiment touché. Je vous demande si c'est possible de discuter avec tous les autres personnes politiques de notre municipalité, vous puissiez aussi les rassurer. Parce qu'il a dit, nous ne voulons pas forcer notre volonté. Nous voulons représenter le roi des rois et son royaume. Afin que lorsqu'on le représente par des actes de justice, d'amour, de bonté, de générosité, les autres voient Christ au travers de nous. Et il y a une sainte jalousie en eux. C'est l'évangélisation par la sainte jalousie. Ils disent, mais il y a une paix, il y a une joie, il y a une générosité, il y a quelque chose, il y a ces gars-là vivent, il y a un amour, il y a une relation, on veut ça! Et que l'Église est épanouie dans sa relation avec Christ. Et qu'elle influence par son style de vie. Parce que le ministère, ce n'est pas prêcher du pupitre. Le ministère, c'est aimer les gens. Et nous avons tous un ministère. Et tu peux aimer là où tu es. Si tu as des ennemis, tu peux l'aimer en commençant à les pardonner. Et après, plus tu grandis dans l'amour, tu peux les bénir. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que l'Église est le levain qui fait lever toute la pâte, le royaume de Dieu. Si l'Église comprend qu'elle existe pour étendre le règne, étendre l'influence de la bonté, de l'amour, étendre l'influence de la lumière, son royaume de lumière, nous dit les Écritures. Et en quoi consiste cette lumière? En toutes sortes d'actes de justice, de bonté et de vérité. Tu peux apprendre à mieux faire le bien. Je peux apprendre à mieux faire le bien. Déjà, commence dans ton couple. Mari, tu fais pour ta femme. Femme, tu fais le bien pour ton mari de plus en plus. Je comprends que pour certains couples, c'est peut-être dur. Mais fais-le comme pour le Seigneur. Quand on donne un acte de générosité comme le serveur, si le serveur ne se donne pas à Jésus, c'est pas grave, parce qu'on le fait d'abord comme pour le Seigneur. On le fait par la foi, parce qu'un acte de justice a plus de puissance qu'une multitude de péchés. Et on comprend cela, et on intègre cela, et l'Église grandit dans son influence. Parce qu'on est empuissancé par l'amour de Dieu dans notre cœur. Son amour qui nous presse. C'est ce que Dieu veut. Il faut arrêter d'avoir peur que les pécheurs peuvent plus influencer la personne juste. Le juste est capable de plus influencer les pécheurs. Parce que sinon, si le juste a toujours peur d'être influencé par le pécheur, la Bible dit que celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Mais celui qui sait qui il est parce que Dieu l'aime, saura que son amour va le conduire à faire des actes qui aura plus d'impact qu'une multitude de péchés. Amen. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es son ouvrage. Et regarde ce que tu es pour, dans Éphésiens 2:10. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je terminerai sur ce verset, Isaïe 58:10. On va le lire ensemble, d'accord ? On va lire ensemble, à trois. 1, 2, 3. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Waouh! Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, le pauvre, alors la conséquence de ceci qui est une condition, si tu prends soin, Église, de celui qui a faim, lui donnant à manger, alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi, c'est-à-dire en plein jour. Ténèbres n'existent plus. Amen.